Ramené à son expression la plus humaine, cet objet sacré est l'homme lui-même et l'humain. Car c'est une illusion de croire que l'humain est tout à fait neutre et tout à fait exempt de cette teinte de surnaturel qui s'attache au divin, et de s'imaginer que dire « l'homme », c'est dire « moi » ou « toi ». Et c'est cette erreur qui peut conduire à l'orgueilleuse illusion qu'on ne voit plus nulle part rien de sacré, que partout nous nous sentons chez nous et délivrés de l'obsession de la sainteté, du frisson de la terreur sacrée. Mais le ravissement d'avoir enfin trouvé l'homme a empêché d'entendre le cri de douleur de l'égoïsme. C'est ainsi qu'on a pris pour notre vrai moi un fantôme devenu si bon homme. Mais le sacré s'appelle humain, dit Goethe, et l'humain n'est que le sacré à sa plus haute puissance. L'égoïste s'exprime tout autrement. C'est justement parce que tu tiens quelque chose pour sacré que je trouve ridicule, et en admettant même que je veuille tout respecter en toi, c'est précisément ton sanctuaire intérieur que je ne respecterai pas. À ces manières de voir si opposées, correspondent naturellement des conduites différentes envers les biens spirituels. L'égoïste les attaque. Le religieux, c'est-à-dire celui qui, au-dessus de lui, place son essence, doit, pour être conséquent, les défendre. Quels biens spirituels faut-il défendre et lesquels doit-on laisser sans protection ? Cela dépend entièrement de l'idée qu'on se fait de l'être suprême. Celui qui craint Dieu, par exemple, a plus à défendre que celui qui craint l'homme, que le libéral. Quand on nous offense dans nos biens spirituels, ce n'est plus comme lorsqu'on nous lésait dans nos biens matériels. Ici, l'offense est spirituelle. Le péché commis contre les biens spirituels consiste à les profaner directement, tandis qu'on ne faisait que détourner ou éloigner les biens matériels. Ici, les biens eux-mêmes subissent une dépréciation, une déchéance. Ils ne sont pas seulement soustraits, leur caractère sacré est directement mis en jeu. On désigne sous le nom d'impiété ou de sacrilège toutes les infractions qui peuvent être commises contre les biens spirituels, c'est-à-dire envers ce que nous tenons pour sacré, et la raillerie, l'insulte, le mépris, le scepticisme, etc., ne sont que des nuances différentes de la criminelle impiété. Sans nous occuper des multiples façons dont le sacrilège peut se commettre, nous ne rappellerons ici que celle qui met en danger la sainteté par le fait d'une presse trop libre. Tant qu'on exigera encore du respect pour le moindre être spirituel, la parole et la presse devront être enchaînées au nom de cet être, car l'égoïste pourrait par ses manifestations l'offenser. Et c'est cette offense qu'on doit réprimer à l'aide de pénalités convenables, à moins qu'on ne préfère recourir aux moyens plus judicieux que fournit la puissance préventive de la police, c'est-à-dire à la censure. Combien de gens nous entendons tous les jours appeler à grands cris la liberté de la presse ? Or, de quoi la presse doit-elle être libre ? Sans doute d'une dépendance, d'une sujétion, d'un asservissement ? Mais c'est affaire à chacun de s'affranchir de tout cela. On peut affirmer avec certitude que si vous avez secoué le joug des vieilles habitudes de domesticité, ce que vous écrivez et publiez vous appartient en propre, au lieu d'avoir été conçu et formulé au service d'un pouvoir quelconque. Mais qu'est-ce qu'un fidèle chrétien peut bien dire ou imprimer qui soit plus indépendant de la croyance chrétienne qu'il ne l'est lui-même ? S'il est des choses que je ne puis ou n'ose écrire, le premier coupable ne peut être que moi-même. Et quoique ceci paraisse s'éloigner du sujet, en voici pourtant l'explication. Par une loi sur la presse, je trace ou je permets qu'on trace autour de mes publications une limite au-delà de laquelle commence le délit et la répression. C'est moi-même qui restreins ma liberté. Pour que la presse fût libre, il serait indispensable qu'aucune contrainte ne pût lui être imposée au nom d'une loi. Et pour en arriver là, il faudrait que moi-même je me fusse affranchi de l'obéissance à la loi. En vérité, la liberté absolue de la presse est une chimère, comme toute liberté absolue. La presse peut être libre de bien des choses, mais elle ne le sera jamais que de ce dont je serai moi-même libre. Affranchissons-nous de tout ce qui est sacré, soyons sans foi et sans loi, et nos discours le seront aussi. Nous ne pouvons pas plus affranchir nos écrits de toute contrainte que nous ne pouvons être nous-mêmes affranchis de tout. Mais nous pouvons les faire aussi libres que nous le sommes. Il faut pour cela qu'ils soient notre propriété, au lieu d'être, comme ils l'ont été jusqu'ici, au service d'un fantôme. On ne se rend pas bien compte de ce qu'on demande en réclamant la liberté de la presse. Ce que prétendument on désire, c'est que l'État rende la presse libre, mais ce qu'on veut en réalité, et sans s'en douter, c'est que la presse soit affranchie de l'État ou n'ait plus à compter avec lui. Le vœu conscient est une pétition que l'on adresse à l'État. La tendance inconsciente est une révolte contre l'État. L'humble supplique, comme la ferme revendication du droit à la liberté de la presse, suppose que l'État est le dispensateur, dont on ne peut espérer qu'un don, une concession, un octroi. Il se pourrait qu'un État fût assez fou pour accorder le cadeau demandé, mais il y a tout à parier que ceux qui le recevraient ne sauraient pas s'en servir aussi longtemps qu'ils considéreraient l'État comme une vérité. Ils se garderaient bien d'offenser cette chose sacrée et appelleraient sur celui qui se le permettrait les sévérités d'une loi sur la presse. En un mot, il est impossible que la presse soit libre de ce dont je ne suis pas libre moi-même. Ce que j'en dis va peut-être me faire passer pour un adversaire de la liberté de la presse. Loin de là, j'affirme seulement qu'on ne l'obtiendra jamais tant qu'on ne voudra qu'elle, la liberté de la presse, c'est-à-dire tant qu'on n'aura en vue qu'une permission limitée. Mendiez-la tant que vous voudrez, cette permission. Vous l'attendrez éternellement, car il n'y a personne au monde qui puisse vous la donner. Tant que vous voudrez voir légitimée, autorisée, justifiée par une permission, c'est-à-dire par la liberté de la presse, l'usage que vous faites de la presse, vous vivrez dans de vaines espérances et de vaines récriminations. Absurdité, vous qui nourrissez des pensées comme on en voit dans votre livre, vous ne parviendrez à leur donner de publicité que grâce à un heureux hasard ou à force d'artifice. Et c'est vous qui voulez vous opposer à ce qu'on harcèle, qu'on importune l'État, jusqu'à ce qu'il accorde enfin la liberté d'imprimer ? Il se pourrait qu'un auteur, à qui on tiendrait ce langage, répondît « Car jusqu'où ne va pas l'insolence de ces gens ?» de la manière suivante. Réfléchissez bien à ce que vous dites. Que fais-je donc en vue de me procurer pour mon livre la liberté de la presse ? Est-ce que je demande une permission ? Ne me voit-on pas, au contraire, sans me soucier de la légalité, guetter une occasion favorable et la saisir sans aucun égard pour l'état de ses désirs ? Oui, je trompe. Puisqu'il faut que le mot terrible soit prononcé, je trompe l'État. Et vous, sans vous en douter, vous en faites autant. Vous lui persuadez, du haut de vos tribunes, qu'il doit faire le sacrifice de sa sainteté et de son invulnérabilité, qu'il doit s'exposer aux attaques des gens qui écrivent sans avoir pour cela de danger à redouter. Eh bien, vous l'abusez, car s'en sera fait de son existence aussitôt qu'il aura perdu son inviolabilité. Il est vrai qu'à vous, il pourrait bien concéder la liberté d'écrire, comme l'a fait l'Angleterre. Vous êtes les dévots de l'État, vous êtes incapables d'écrire contre lui, quoique vous y puissiez voir d'abus à réformer et de défectuosité à amender. Mais quoi ? Si des adversaires de l'État profitaient de la liberté de la parole pour se déchaîner contre l'Église, l'État, les mœurs, et pour assaillir le sacro-saint d'implacables arguments ? Vous seriez alors les premiers à trembler et à appeler à la vie des lois de septembre. Vous vous repentiriez trop tard de la sottise qui vous aurait poussé à enjôler et à aveugler l'État ou le gouvernement. Mais ma conduite à moi ne prouve que deux choses. D'abord ceci, que la liberté de la presse est toujours inséparable de circonstances favorables et ne peut, par conséquent, jamais être une liberté absolue. En second lieu, ceci, que quiconque veut en jouir doit rechercher et au besoin créer l'occasion favorable en faisant prévaloir contre l'État son propre intérêt et en se mettant, soit et sa volonté, au-dessus de l'État et de toute puissance supérieure. Ce n'est pas dans l'État, ce n'est que contre l'État que la liberté de la presse peut être conquise. Et si cette liberté règne jamais, ce n'est pas à la suite d'une prière, mais bien comme l'œuvre d'une révolte qu'on l'aura obtenue. Toute demande, toute proposition de liberté de la presse est déjà une révolte, consciente ou inconsciente. Il n'y a que l'insuffisance philistine qui ne veuille ni ne puisse se l'avouer, tant que le résultat ne lui aura pas, à sa grande terreur, montré d'une façon claire et évidente. La liberté de la presse obtenue, à force de prières, a d'abord un air amical et bienveillant. Il est bien loin de ses intentions de laisser jamais surgir la licence de la presse. Mais peu à peu son cœur s'endurcit, et elle en arrive insensiblement à conclure qu'en définitive, une liberté n'est pas une liberté tant qu'elle est au service de l'État, de la morale ou de la loi. Liberté vis-à-vis de la contrainte, de la censure, elle n'est pas liberté vis-à-vis de la contrainte de la loi. La presse, une fois saisie du désir de la liberté, veut devenir toujours plus libre jusqu'à ce qu'enfin l'écrivain se dise « Puisque je ne suis tout à fait libre que quand je n'ai aucun ménagement à garder, mes écrits ne sont libres que quand ils sont à moi, quand ils ne peuvent m'être dictés par aucune puissance ou autorité, par aucune foi, par aucun respect, ce n'est pas libre que la presse doit être, c'est trop peu, elle doit être à moi. » L'individualité, la propriété de la presse, voilà ce que je veux m'assurer. Une liberté de la presse n'est qu'un permis d'imprimer que me délivre l'État, et l'État ne permettra jamais, et il ne peut jamais librement permettre, que j'emploie la presse à l'anéantir. Exprimons-nous donc plutôt de la manière suivante, pour éviter ce que le terme « liberté de la presse » a pu laisser jusqu'ici de vague dans nos paroles. La liberté de la presse que revendiquent si haut les libéraux est, sans aucun doute, possible dans l'État. Elle n'est même possible que dans l'État, attendu qu'elle ait une permission et que, par conséquent, cette imprimature doit être accordée par quelqu'un qui, dans le cas présent, est l'État. Mais en tant que permission, elle est limitée par cet État lui-même qui naturellement n'est pas tenu de tolérer plus qu'il n'est compatible avec sa conservation et sa prospérité. Il trace à la liberté de la presse une limite, qui est la loi de son existence et de son extension. Un État peut être plus tolérant qu'un autre, mais il n'y a là qu'une différence de quantité. C'est pourtant cette différence qui tient tant à cœur aux politiciens libéraux. En Allemagne, par exemple, ils ne demandent qu'une tolérance plus large, plus étendue, de la parole libre. La liberté de la presse qu'on sollicite est une liberté qui doit appartenir au peuple. Et tant que le peuple, l'État, ne la possède pas, je ne puis en faire aucun usage. Mais si on se place au point de vue de la propriété de la presse, les choses se présentent sous un jour différent. Bien que mon peuple soit privé de la liberté de la presse, je me procure par ruse ou par violence le moyen d'imprimer. Je ne demande la permission d'imprimer qu'à moi et à ma force. Dès que la presse est à moi, il ne me faut pas plus d'autorisation de l'État pour en user qu'il ne m'en faut pour me moucher. Et la presse est ma propriété à partir du moment où, pour moi, il n'y a plus rien au-dessus de moi, car dès lors plus d'État, plus d'Église, plus de peuple, plus de société. Tous ne devaient leur existence qu'à mon mépris de moi-même, et tous s'évanouissent dès que l'infirmité de mon orgueil disparaît. Ils ne sont qu'à la condition d'être au-dessus de moi, ils n'existent que s'ils sont des puissances. À moins qu'on ne puisse se figurer un État dont les sujets ne feraient aucun cas? Ce serait un rêve, une illusion, tout comme l'unité de l'Allemagne. La presse est à moi dès que je m'appartiens, dès que je suis mon propriétaire. Le monde est à l'égoïste, parce que l'égoïste n'appartient à aucune puissance du monde. Cela étant, il se peut très bien que la presse, quoique mienne, soit encore très peu libre, comme c'est le cas en ce moment. Mais le monde est grand, et on se tire d'affaire comme on peut. Si je consentais à renoncer à la propriété de ma presse, j'arriverais facilement à faire imprimer partout tout ce que ma plume produit. Mais comme je veux affirmer ma propriété, il faut bien que j'en vienne aux mains avec mes ennemis. N'accepterais-tu pas leur permission si on te l'accordait ? Oui, certes, et avec plaisir, car leur permission me prouverait que je les ai aveuglés et que je les mène à l'abîme. Ce n'est pas leur permission que je veux, mais leur aveuglement et leur défaite. Si je la sollicite, cette permission, ce n'est pas parce que j'espère, comme les politiciens libéraux, qu'eux et moi pourrions vivre en paix, côte à côte, et même nous soutenir, nous entraider réciproquement. Non, si je la sollicite, c'est pour m'en faire une arme contre eux, c'est pour faire disparaître ceux-là même qui me l'auront accordée. J'agis consciemment comme un ennemi, je prends mes avantages et je profite de leur imprévoyance. La presse n'est à moi que si j'en use sans reconnaître absolument aucun juge en dehors de moi-même. C'est-à-dire que si je ne suis plus déterminé ni par la religion, ni par la morale, ni par le respect des lois de l'État, etc., mais par moi seul et par mon égoïsme. Qu'avez-vous à répliquer à celui qui vous fait une réponse si insolente ? Mais peut-être la question sera-t-elle mieux posée sous la forme suivante. À qui est la presse ? Au peuple, l'État ou à moi ? Les politiciens se proposent simplement de soustraire la presse aux entreprises personnelles et arbitraires des gouvernants. Ils ne réfléchissent pas que, pour être vraiment ouverte à tout le monde, elle devrait être affranchie des lois, c'est-à-dire indépendante de la volonté du peuple, de la volonté de l'État. Mais une fois devenue la propriété du peuple, la presse est encore bien loin d'être ma propriété. Sa liberté conserve par rapport à moi le sens de permission. C'est au peuple qu'il appartient de juger mes idées. C'est à lui que j'en dois compte, c'est envers lui que j'en suis responsable. Or, les jurés aussi, quand on attaque leurs idées fixes, ont le cœur et la tête dure, tout comme les plus farouches despotes et les esclaves qu'ils emploient. Edgar Boer, dans ses revendications libérales, soutient que la liberté de la presse est impossible dans les États absolus ou constitutionnels, mais qu'elle a sa place tout indiquée dans les États libres. Dans ceci, dit-il, l'individu a le droit d'exprimer tout ce qu'il pense, et ce droit ne lui est pas contesté parce qu'il n'est plus seulement un individu isolé, mais bien un membre solidaire d'un tout réel et intelligent. Ce n'est donc pas l'individu, mais le membre qui jouit de la liberté de la presse. Mais si, pour jouir de la liberté de la presse, il faut que l'individu ait prouvé sa fidélité à la communauté, qui est le peuple, cette liberté ne lui appartient pas en vertu de sa propre énergie. Elle est une liberté du peuple, une liberté qui ne lui est accordée à lui, individu, qu'en raison de sa fidélité et de sa qualité de sociétaire. Au contraire, ce n'est que comme individu que chacun peut être libre d'exprimer sa pensée. Mais il n'en a pas le droit, et cette liberté n'est pas son droit sacré. Il n'en a que le pouvoir, pouvoir qui suffit d'ailleurs pour le mettre en possession. Pour posséder la liberté de la presse, je n'ai pas besoin de concession, je n'ai pas besoin du consentement du peuple, je n'ai pas besoin d'en avoir le droit, ni d'y être autorisé. Il en est de la liberté de la presse comme de toute autre liberté. Je dois la prendre moi-même. Le peuple, quoique seul juge, ne peut me la donner. Il peut applaudir à la liberté dont je m'empare, ou il peut se mettre en garde et se défendre contre elle, mais me la donner, me l'accorder, me l'octroyer lui est impossible. J'en use malgré le peuple en ma seule qualité d'individu, c'est-à-dire que je lutte pour elle contre le peuple, mon ennemi. Je ne l'obtiens que si je la conquiers réellement, si je la prends. Et si je la prends, c'est qu'elle est ma propriété. Sander, que combat Edgar Boer, considère la liberté de la presse comme le droit et la liberté du citoyen dans l'État. Boer ne dit rien d'autre. Pour lui aussi, elle n'est que le droit du citoyen libre. On réclame encore la liberté de la presse comme un droit commun à tous les hommes. À cela, il a été objecté que tous les hommes ne savent pas en faire bon usage, attendu que tous ne sont pas vraiment hommes. À l'homme, comme tel, Jamais un gouvernement ne l'a refusé. Seulement l'homme n'écrit pas pour l'excellente raison qu'il est un fantôme. Cette liberté, les gouvernements ne l'ont jamais refusée qu'à des individus pour l'accorder à d'autres individus, par exemple à leurs organes. Donc, si on veut l'obtenir pour tout le monde, il faut précisément affirmer qu'elle appartient à l'individu, à moi, et non pas à l'homme ou à l'individu en tant qu'homme. Dans tous les cas, ce qui n'est pas homme, l'animal par exemple, ne peut en faire usage. Le gouvernement français par exemple ne conteste pas que la liberté de la presse soit un droit de l'homme. Il exige seulement de l'individu un cautionnement établissant qu'il est vraiment homme, car ce n'est pas à l'individu, c'est à l'homme qu'il accorde la liberté de la presse. C'est justement sous le prétexte que cela n'est pas humain qu'on m'a enlevé ce qui est à moi, et on m'a laissé ce qui est à l'homme. La liberté de la presse ne peut produire qu'une presse responsable. Une presse irresponsable ne peut naître que de la propriété de la presse. Les relations des hommes entre eux sont régies, pour tous ceux qui vivent religieusement, par une loi formelle dont on peut bien parfois, au risque de péché, négliger l'observation, mais dont on ne s'aviserait jamais de nier la valeur absolue. C'est la loi de l'amour, loi avec laquelle ceux-là même qui semblent combattre son principe et qui haïssent son nom n'ont pas encore su rompre. Car à eux aussi il reste de l'amour, leur amour est même plus profond et plus pur, ils aiment l'homme et l'humanité. Si nous tâchons de formuler le sens de cette loi, nous dirons à peu près. Chaque homme doit tenir quelque chose pour plus que lui-même. Tu dois oublier ton intérêt privé dès qu'il s'agit du bonheur des autres, du bien de la patrie ou de la société, du bien public, du bien de l'humanité, de la bonne cause, etc. Patrie, humanité, société, etc. doivent être pour toi plus que toi-même, et ton intérêt privé doit s'effacer devant leur intérêt. Car il ne faut pas être un égoïste. L'amour est un commandement religieux d'une grande portée. Il ne se borne pas à l'amour de Dieu et des hommes, mais il préside à tous nos rapports. Quoi que nous fassions, pensions et voulions, toujours l'amour doit faire le fond de nos actions, de nos pensées et de nos désirs. Il nous est bien permis de juger, mais nous ne devons juger qu'avec amour. On peut certainement critiquer la Bible, et même d'une manière approfondie, mais le critique doit, avant tout, l'aimer et voir en elle le livre saint. N'est-ce pas comme si on disait « Il ne faut pas que sa critique l'anéantisse, il doit la laisser subsister, et subsister en tant que chose sacrée et indestructible ?» Il en est de même de notre critique des hommes. L'amour doit en rester la tonique invariable. Il est certain que les jugements que nous dicte la haine ne sont pas nos propres jugements. Ce sont les jugements de la haine qui nous dominent, des jugements haineux. Mais les jugements dictés par l'amour sont-ils mieux les nôtres? Ce sont les jugements de l'amour qui nous dominent. Ce sont des jugements charitables, indulgents. Mais ce ne sont pas nos propres jugements, ni par conséquent réellement des jugements. Celui qui brûle d'amour pour la justice s'écrie « Fiat justitia pereat mundus ». Il lui est permis de se demander et d'examiner ce que c'est à proprement parler que la justice, ce qu'elle exige et en quoi elle consiste, mais non pas si elle est quelque chose. Il est vrai que celui qui demeure dans l'amour, celui-là demeure en Dieu et Dieu en lui. Premier épître de Jean, chapitre 4, verset 16. Le Dieu demeure en lui, il ne peut s'en défaire et devenir sans Dieu, et lui-même demeure en Dieu, il reste confiné dans l'amour de Dieu et ne peut devenir sans amour. Dieu est l'amour. Tous les siècles et toutes les générations reconnaissent dans cette parole le fondement du christianisme. Mais ce Dieu qui est amour est un Dieu importun. Il ne peut pas laisser le monde en repos, il veut lui infuser la sainteté. Dieu s'est fait homme pour rendre les hommes divins. Sa main se retrouve partout et rien n'arrive que par lui. En tout se révèlent ses desseins excellents, ses vues et ses décrets impénétrables. La raison qui est lui-même, doit aussi se développer et se réaliser dans le monde entier. Sa providence paternelle ne nous laisse plus la moindre initiative. Nous ne pouvons rien faire de sensé sans que l'on dise « c'est Dieu qui l'a fait », ni nous attirer une disgrâce sans entendre dire « Dieu l'a voulu ainsi ». Nous n'avons rien qui ne nous vienne de lui. Tout nous est donné par lui. Mais ce que fait Dieu, l'homme le fait aussi. Dieu veut donner au monde la béatitude, l'homme veut lui donner le bonheur et rendre tous les hommes heureux. C'est pourquoi tout homme voudrait éveiller chez les autres la raison qu'il croit avoir lui-même en partage. Tout doit être totalement raisonnable. Dieu combat le diable, le philosophe combat la déraison et l'irrationnel. Dieu ne laisse aucun être suivre la voie qui lui est propre, et l'homme ne veut nous permettre qu'une conduite humaine. Mais celui qui est pénétré de l'amour sacré, religieux, moral, humain, n'a d'amour que pour le fantôme, pour le véritable homme, et il persécute l'individu, l'homme réel, aussi impitoyablement et avec la même froideur que s'il procédait juridiquement contre un monstre. Il trouve louable et nécessaire de se montrer inexorable, car l'amour du fantôme ou de la généralité abstraite lui ordonne de haïr tout ce qui n'est pas fantôme, c'est-à-dire l'égoïste ou l'individuel. Tel est le sens de cette fameuse manifestation de l'amour qu'on nomme justice. L'accusé n'a aucun ménagement à espérer, pas une âme compatissante ne jettera un voile sur sa triste nudité. Sans émotion, le juge austère arrache aux pauvres condamnés ses derniers lambeaux d'excuses. Sans pitié, le geôlier le traîne à sa sombre prison et à l'expiration de sa peine. Il n'a pas à espérer de réconciliation. Quand on le rejettera, flétri parmi les hommes, ses bons, ses loyaux frères en christianisme lui cracheront au visage avec mépris. Pas de grâce non plus pour le criminel qui a mérité la mort. On le conduit à l'échafaud et la loi morale assouvit aux acclamations de la foule son sublime besoin de vengeance. Car l'un des deux seul peut vivre, la loi morale ou le criminel. Où les criminels restent impunis, la loi morale succombe et où celle-ci règne, ceux-là doivent tomber. Leur antagonisme est impérissable. L'ère chrétienne est l'ère de la miséricorde, de l'amour, du souci de rendre aux hommes ce qui leur appartient et de les guider vers l'accomplissement de leur vocation humaine, divine. Aussi, toutes les relations humaines ont-elles pour base cette considération. Telle et telle chose constitue l'essence de l'homme, et par conséquent, lui trace la destinée à laquelle il est appelé soit par Dieu, soit, selon les idées d'aujourd'hui, par sa qualité d'homme, sa race. De là le prosélytisme. Bien que les communistes, les humanitaires, attendent de l'homme plus que les chrétiens, leur point de vue reste le même. À l'homme doit appartenir tout ce qui est humain. S'il suffisait aux pieux que l'homme eût en partage ce qui est de Dieu, les humanitaires exigent que rien ne lui soit refusé de ce qui est de l'homme. Quant à ce qui est de l'égoïste, les uns et les autres le repoussent énergiquement. Cela est parfaitement naturel, car ce qui est l'œuvre de l'égoïsme ne peut être accordé ni concédé, en fief, il faut qu'on le crée soi-même. Le reste, l'amour me l'accordait. Ceci, moi seul puis me le donner. Jusqu'à présent, les relations ont été fondées sur l'amour, les égards et les services réciproques. Si l'on se devait à soi-même de se sanctifier, c'est-à-dire d'introniser en soi l'être suprême, et d'en faire une vérité et une réalité, on devait aussi aux autres de les aider à réaliser leur essence et leur destinée. Dans les deux cas, on devait à l'essence de l'homme de contribuer à sa réalisation. Seulement, on ne se doit pas à soi-même de faire quelque chose de soi, ni aux autres de faire d'eux quelque chose. On ne doit rien ni à son essence, ni à celle des autres. Toute relation qui repose sur une essence sont des relations avec un fantôme et non avec une réalité. Mes rapports avec l'être suprême ne sont pas des rapports avec moi, et mes rapports avec l'essence de l'homme ne sont pas des rapports avec les hommes. De l'amour tel qu'il est naturel à l'homme de le ressentir, la civilisation a fait un commandement. Mais en tant que commandé, l'amour appartient à l'homme comme tel et non à moi. Il est mon essence, cette essence que l'on tient pour si essentielle et n'est pas ma propriété. C'est l'homme, c'est-à-dire l'humanité, qui me l'impose. L'amour est obligatoire, aimer est mon devoir. Ainsi, au lieu d'avoir sa source réellement en moi, il l'a dans l'homme en général, dont il est la propriété, l'attribut particulier. Il sied à l'homme, c'est-à-dire à chaque homme, d'aimer. Aimer est le devoir et la vocation de l'homme, etc. Il faut par conséquent que je revendique l'amour pour moi et que je le soustrais à la puissance de l'homme. On en est arrivé à me concéder comme un fief dont la propriété appartient à l'homme, ce qui était primitivement à moi, mais sans raison logique, instinctivement. En aimant, je suis devenu un vassal, je suis devenu l'homme lige de l'humanité, un simple représentant de cette espèce. Lorsque j'agis non pas comme moi, mais comme homme, j'agis comme un exemplaire de l'espèce humaine, c'est-à-dire humainement. Notre état de civilisation tout entier est un système féodal où la propriété appartient à l'homme ou à l'humanité et où rien n'appartient au moi. En dépouillant l'individu de tout pour attribuer tout à l'homme, on a fondé une énorme féodalité. L'individu n'apparaît plus en fin de compte que comme foncièrement mauvais. Faut-il peut-être ne prendre aucun intérêt actif à la personne d'autrui ? Dois-je n'avoir à cœur ni sa joie ni son intérêt ? Ne puis-je préférer la jouissance que je lui procure à telle ou telle de mes jouissances personnelles ? Loin de là, je puis lui sacrifier avec joie d'innombrables jouissances, je puis m'imposer des privations sans nombre pour augmenter son plaisir, et je puis, pour lui, mettre en péril ce qui, sans lui, me serait le plus cher, ma vie, ma prospérité, ma liberté. En effet, c'est pour moi un plaisir et un bonheur que le spectacle de son bonheur et de son plaisir. Mais je ne me sacrifie pas à lui, je reste égoïste et je jouis de lui. En lui sacrifiant tout ce que n'était mon amour pour lui, je me réserverai. Je fais une chose très simple et même plus commune dans la vie qu'il ne paraît, qui prouve uniquement qu'une certaine passion est plus forte chez moi que toutes les autres. Le christianisme aussi enseigne à sacrifier toutes les autres passions à celle-là. Mais sacrifier des passions à une autre, ce n'est pas me sacrifier moi-même. Je ne sacrifie rien de ce par quoi je suis vraiment moi. Je ne sacrifie pas ce qui fait à proprement parler ma valeur, mon individualité. Il se pourrait que cette fâcheuse éventualité se produisît. C'est qu'il en est de l'amour comme de toute autre passion, du moment que j'y obéis aveuglément. Si l'ambitieux que sa passion entraîne reste sourd aux avertissements qu'un instant de sang-froid éveillerait en lui, c'est qu'il a laissé cette passion prendre les proportions d'une tyrannie à laquelle il a perdu le pouvoir de se soustraire. Il a abdiqué devant elle, parce qu'il ne sait plus se détacher d'elle et par conséquent s'en affranchir. Il est possédé. Moi aussi j'aime les hommes, non seulement quelques-uns, mais chacun d'eux. Mais je les aime avec la conscience de mon égoïsme. Je les aime parce que l'amour me rend heureux. J'aime parce qu'il m'est naturel et agréable d'aimer. Je ne connais pas d'obligation d'aimer. J'ai de la sympathie pour tout être sentant. Ce qui l'afflige, m'afflige, et ce qui le soulage, me soulage. Je pourrais le tuer, je ne saurais le martyriser. Au contraire, le noble et vertueux philistin qu'est le prince Rodolphe des Mystères de Paris s'ingénie à martyriser les méchants parce qu'il l'exaspère. Ma sympathie prouve simplement que le sentiment de ceux qui sentent est aussi le mien qu'il est ma propriété. Tandis que le procédé impitoyable de l'homme de bien, la façon par exemple dont il traite le notaire Ferrand, rappelle l'insensibilité de ce brigand qui, selon la mesure de son lit, coupait ou étendait de force les jambes de ses prisonniers. Le lit de Rodolphe, à la mesure duquel il taille les hommes, c'est la notion du bien. Le sentiment du droit, de la vertu, etc., rend dur et intolérant. Rodolphe ne sent pas comme le notaire. Il sent, au contraire, que le scélérat a ce qu'il a mérité. Ce n'est pas là de la sympathie. Vous aimez l'homme, et ça vous est une raison pour torturer l'individu, l'égoïste. Votre amour de l'homme fait de vous les bourreaux des hommes. Quand je vois souffrir celui que j'aime, je souffre avec lui, et je n'ai pas de repos que je n'ai tout tenté pour le consoler et l'égayer. Quand je le vois joyeux, sa joie me rend joyeux. Il ne suit pas de là que ce soit le même objet qui produit sa peine ou sa joie et qui éveille en moi les mêmes sentiments. Cela est surtout évident quand il s'agit de la douleur corporelle, que je ne ressens pas comme lui. C'est sa dent qui lui fait mal, et ce qui me fait mal à moi, c'est sa souffrance. Et c'est parce que je ne puis supporter ce pli douloureux sur le front aimé, c'est par conséquent dans mon intérêt que je l'efface par un baiser. Si je ne t'aimais pas, tu pourrais froncer les sourcils tant que tu voudrais sans m'émouvoir. Je ne veux dissiper que mon chagrin. Y a-t-il maintenant quelqu'un ou quelque chose que je n'aime pas et qui a le droit d'être aimé par moi? Qui passe le premier, mon amour ou son droit? Les parents, les amis, le peuple, la patrie, la ville natale, etc. Enfin, en général, mes semblables, mes frères, prétendent avoir droit à mon amour et le réclament impérieusement. Ils le considèrent comme leur propriété, et moi, si je ne respecte pas cette propriété, ils me considèrent comme un voleur qui leur enlève ce qui leur appartient. Je dois donc aimer. Mais si l'amour est un commandement et une loi, il faut qu'on m'y forme et qu'on m'y dresse, et qu'on me punisse si je viens à l'enfreindre. On exercera donc sur moi, pour m'amener à aimer, la plus énergique influence morale possible. Et il est hors de doute que l'on peut exciter et induire les hommes à l'amour aussi bien qu'aux autres passions, à la haine par exemple. La haine se transmet de génération en génération. On peut se haïr uniquement parce que les ancêtres des uns étaient guelfes et ceux des autres gibelins. Mais l'amour n'est pas un commandement. Comme tous mes autres sentiments, il est ma propriété. Mériter, c'est-à-dire acheter ma propriété, et je vous la céderai. Je n'ai pas à aimer une religion, un peuple, une patrie, une famille, etc., qui ne savent pas mériter mon amour. Je vends ma tendresse au prix qu'il me plaît de fixer. L'amour intéressé est bien différent de l'amour désintéressé, mystique ou romantique. On peut aimer une foule de choses, on peut aimer non seulement l'homme, mais en général tout objet, quel qu'il soit, le vin, la patrie, etc. L'amour devient aveugle et furieux lorsque, devenant nécessité, il échappe à ma puissance. Aimer à la folie. Il devient romantique lorsqu'il s'y joint une idée de devoir, c'est-à-dire quand l'objet de l'amour me devient sacré et quand je me sens lié à lui par le devoir. La conscience, le serment. Dans les deux cas, l'objet ne m'appartient plus, c'est moi qui lui appartiens. Si l'amour est une possession, ce n'est pas en tant qu'il est mon sentiment. En cette qualité, au contraire, j'en reste maître comme de ma propriété. Mais bien parce que son objet m'est étranger. L'amour religieux, en effet, repose sur le commandement d'aimer, dans l'objet aimé, une chose sacrée. Car il existe pour l'amour désintéressé des objets dignes d'amour d'une manière absolue. Des objets pour lesquels mon cœur a devoir de battre. Tels sont, par exemple, les autres hommes, ou encore un époux, les parents, etc. L'amour sacré s'attache à ce qu'il y a de sacré dans l'objet aimé. Aussi s'efforce-t-il de faire que ce qu'il aime approche autant que possible de la sainteté et devienne, par exemple, un homme. Ce que j'aime, il est de mon devoir de l'aimer. Ce n'est pas par suite ou en raison de mon amour qu'il devient le but de ce dernier. Il est de lui-même et par lui-même digne d'amour. Ce n'est pas moi qui fais de lui un objet d'amour, il est par essence, qu'il puisse, dans une certaine mesure, l'être devenu par mon choix. S'il s'agit par exemple d'un époux, d'une fiancée, cela ne fait rien à l'affaire. Attendu que, même dans ce cas, ma prédilection lui confère un droit à mon amour, et que, l'ayant aimé, je suis tenu de l'aimer éternellement. Il n'est donc pas l'objet de mon amour, mais de l'amour en général. C'est un objet qui doit être aimé. L'amour lui revient, il lui est dû, il est son droit, et moi, je suis obligé de l'aimer. Mon amour, c'est-à-dire l'amour dont je m'acquitte envers lui, est en réalité un amour qui lui appartient, un tribut que je lui paie. Tout amour auquel adhère la moindre tâche d'obligation est un amour désintéressé, et aussi loin que s'étende cette tâche, l'amour devient servitude. Quiconque croit devoir quelque chose à l'objet de son amour aime d'une façon romantique ou religieuse. L'amour de la famille, par exemple, tel qu'on le conçoit communément sous le nom de piété, est un amour religieux. De même, l'amour de la patrie, qu'on prêche sous le nom de patriotisme. Tout ce que nous avons d'amour romantique se meut dans le même cercle. C'est partout et toujours le mensonge, ou plutôt l'illusion d'un amour désintéressé. C'est un intérêt que nous portons à l'objet pour l'amour de cet objet et non pour l'amour de nous et de nous seuls. L'amour religieux ou romantique se distingue, il est vrai, de l'amour physique par une différence dans l'objet, mais pas par une différence dans nos rapports avec lui. À ce dernier point de vue, l'un comme l'autre est possession, servitude. Quant à l'objet, dans un cas il est profane, dans l'autre sacré. Il exerce sur moi, dans les deux cas, la même domination, seulement dans l'un il est sensible et dans l'autre spirituel, imaginaire. Mon amour n'est ma propriété que s'il consiste uniquement en un intérêt personnel et égoïste, si, par conséquent, l'objet de mon amour est réellement mon objet ou ma propriété. Or, je ne dois rien à ma propriété, et je n'ai pas de devoir envers elle. Pas plus que je n'ai, par exemple, de devoir envers mon œil. Si j'en prends le plus grand soin, c'est pour moi que je le fais. L'amour n'a pas plus manqué à l'Antiquité qu'au siècle de christianisme. Le dieu de l'amour est né longtemps avant le dieu d'amour. Mais il était réservé aux modernes de connaître l'esclavage du mysticisme. Si l'amour est servitude, c'est que son objet m'est étranger, et que je suis impuissant contre son éloignement et sa supériorité. Pour l'égoïste, rien n'est assez haut pour qu'il croie devoir s'humilier. Rien n'est assez indépendant pour qu'il en fasse le principe de sa vie. Rien n'est assez sacré pour qu'il s'y sacrifie. L'amour de l'égoïste prend sa source dans l'intérêt personnel, coule dans le lit de l'intérêt personnel et a son embouchure dans l'intérêt personnel. Est-ce encore là de l'amour ? Demandera-t-on ? Choisissez un autre nom si vous en savez un meilleur, et que le doux nom d'amour s'éteigne avec un monde qui n'est plus. Pour ma part, je n'en trouve pas d'autre pour le moment dans notre langue chrétienne, et je m'en tiens au vieux mot « j'aime l'objet qui est mien, j'aime ma propriété ». Je ne consens à me livrer à l'amour que pour autant qu'il ne soit qu'un de mes sentiments. Mais s'il faut qu'il soit une force supérieure à moi, une puissance divine, feu Erbach, une passion à laquelle j'ai le devoir de ne pas me soustraire, une obligation morale et religieuse, je le méprise. Sentiment, il est à moi, principe auquel je dois vouer et consacrer mon âme. Il est souverain et divin, comme la haine est diabolique. L'un ne vaut pas mieux que l'autre. En un mot, l'amour égoïste, c'est-à-dire mon amour, n'est ni sacré, ni profane, ni divin, ni diabolique. Un amour que limite la foi est un amour faux. La seule limitation qui ne soit pas contradictoire avec l'essence de l'amour est celle que l'amour s'impose à lui-même par la raison, l'intelligence. L'amour qui repousse la rigueur et la loi de l'intelligence est théoriquement un amour faux, pratiquement un amour funeste. C'est ce que dit Feuerbach. Les croyants disent au contraire, l'amour est essentiellement du domaine de la foi. Celui-là s'élève avec véhémence contre l'amour sans raison, ceux-ci contre l'amour sans foi. Pour Feuerbach, comme pour le dévot, l'amour est tout au plus un splendidum vitium. Ne sont-ils pas tous deux obligés de laisser subsister l'amour, même entaché de déraison ou d'impiété ? Ils n'osent pas dire « l'amour déraisonnable ou impie est une absurdité. n'est pas de l'amour, pas plus qu'il n'oserait dire, des larmes déraisonnables ou impies ne sont pas des larmes. L'amour, même en dehors de la raison ou de la foi, doit bien être considéré comme de l'amour, encore qu'on doive le regarder, alors, comme indigne de l'homme. Tout ce qu'on peut conclure, c'est que l'essentiel n'est pas l'amour, mais la raison ou la foi, et que celui qui est sans raison ou sans foi peut bien aimer, mais qu'un amour n'a de valeur que s'il est celui d'un homme raisonnable ou d'un croyant. Feuerbach est victime d'une illusion lorsqu'il dit que l'amour emprunte à la raison sa propre limitation. Le croyant aurait au même titre le droit de dire que cette limitation propre est le fait de la loi. L'amour déraisonnable n'est ni faux ni funeste, c'est comme amour tout court qu'il remplit son rôle. Il faut qu'envers le monde, et particulièrement envers les hommes, j'adopte un sentiment déterminé, et que ce sentiment, qui dans le cas présent est l'amour, je leur témoigne de prime abord, avant toute expérience. Je reconnais qu'en agissant ainsi, je fais preuve de plus d'arbitraire et d'autonomie que si je laisse le monde m'assaillir des sentiments les plus divers, et si je me laisse envelopper par le réseau inextricable des impressions que le hasard m'apporte. En effet, j'aborde les hommes et les choses avec un sentiment fait d'avance, avec, pour ainsi dire, un parti pris et une opinion préconçue. Je me suis au préalable tracé ma conduite envers eux, et, quoi qu'ils fassent, je ne sentirai et je ne penserai à leur égard que comme j'ai, une fois pour toutes, résolu de le faire. Le principe de l'amour m'assure contre la domination du monde, car quoi qu'il arrive, j'aime. Ce qui est laid, par exemple, peut m'inspirer de la répulsion, mais comme j'ai résolu d'aimer, je surmonte cette impression désagréable comme je surmonte toute autre antipathie. Mais le sentiment auquel je me suis a priori déterminé et condamné est, en réalité, un sentiment borné, parce qu'il résulte d'une prédestination dont il ne m'est pas possible de m'affranchir. Étant préconçu, il est un préjugé. Ce n'est plus moi qui m'exprime dans mes rapports avec le monde, mais c'est mon amour qui s'exprime.